Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce lundi 25 octobre, les titres. Entre 150 et 200 migrants occupent la gare de Briançon depuis hier soir. L'association Terrasse Solidaire a pris la décision hier de fermer ses portes symboliquement, alors que plus de 200 personnes demandaient un accueil pour une capacité de 80, une place pour l'établissement. Arnaud Murgia condamne, mais il en appelle à l'État. À Digne-les-Bains, on repart en campagne pour les municipales, des élections qui se joueront les 5 et 12 décembre prochains. La liste de Gilles Chalvet de Terre d'Innoise compte bien sortir de sa place d'opposante pour représenter d'ici le 13 décembre la nouvelle majorité. Elle attaque le bilan de Patricia Granet-Brunello. Plus de 200 offres d'emploi demain lors de la 7e édition de la grande mobilisation à Gap. 65 entreprises de différents secteurs seront présentes. Une savonnerie qui tend vers le zéro déchet, c'est le projet de Kezia mené par Coralie Selin, une jeune chimiste de 35 ans. Elle travaille aussi sur un projet pour développer en circuit court des huiles utilisées dans la production de cosmétiques. La gare de Briançon est occupée par 150 à 200 migrants depuis hier soir, alors que les terrasses solidaires n'accueillent plus d'exilés. Face à, je cite, un raz-de-marée d'arrivées de migrants, l'association qui inaugurait son nouveau local dans une ancienne clinique samedi a pris la décision hier de fermer ses portes symboliquement et temporairement. Plus de 200 personnes demandaient en effet un accueil alors que la capacité de l'établissement est de 81 places. Max Duez est membre du conseil d'administration de Refuge Solidaire.
Cette jauge est complexe et c'est l'enjeu du problème. Dans l'ancien refuge, la jauge permise était à 35, mais on le sait, elle était tout le temps dépassée. La jauge que nous sommes mise dans les nouveaux locaux des terrasses, on l'a mise à 50. La commission de sécurité a accepté une jauge à 81. Il n'y a pas à cacher les chiffres, ils sont donnés quotidiennement à la sous-préfecture. C'est parfois dépassé au double. Et on ne peut pas le gérer, c'est un raz-de-marée qui arrive, qu'on n'a pas choisi. On ne fait pas un appel d'air, c'est des gens qui arrivent et qui nous submergent. Cette question de la sécurité nous interpelle depuis le début, puisque depuis le début nous étions une association en fait de bénévoles. Vu la charge que cela représente, on est en train de professionnaliser. Au 1er novembre, on engage 6 équivalents temps plein. On engage des veilleurs de nuit, des factotums, des personnes pour l'accueil, une direction générale, et nous voudrions étendre cette professionnalisation et aussi faire comprendre que l'État réalise que la migration n'est pas que conflictuelle puisqu'elle apporte l'impérieuse nécessité d'engager du travail.
Les membres de l'association préviennent l'État, ces missions d'accueil ne reprendront que lorsque les conditions de sécurité pourront être respectées. Arnaud Murgia, le maire de Briançon, condamne cette situation, mais il appelle l'État à adopter une réponse claire et ferme et des moyens supplémentaires pour faire face aux pics migratoires.
Je condamne l'occupation déjà en elle-même, parce que ça s'apparente à un bras de fer entamé avec les autorités publiques, et moi je ne rentre jamais là-dedans. Voilà, on ne prend pas en otage la population, la gare, pour arriver à ses fins et à des revendications qui, au fond, sont des revendications politiques. La deuxième des choses, on ne peut pas avoir sciemment fait l'acquisition d'un bâtiment pour organiser l'accueil des migrants, et puis quelques semaines après l'ouverture, se décharger finalement sur l'État en disant bah, « nous, on n'y arrive pas, prenez vos responsabilités ». Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. J'ai encore échangé hier et aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur, j'appelle très clairement à une réponse républicaine qui soit claire et qui soit ferme, d'une part pour gérer cette situation, je l'espère dans le calme, mais aussi surtout pour faire face à la crise migratoire qui nécessitera, je le sais et j'en suis sûr, des moyens supplémentaires. Ce qui est très clair, c'est que je souhaite que la gare de Briançon ne soit pas occupée plus longtemps.
Le maire qui est en contact depuis hier soir avec le cabinet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour gérer cette situation. Dans un communiqué, la préfecture des Hautes-Alpes tient à rappeler, je cite, que l'hébergement d'urgence inconditionnel ne signifie pas illimité, même si dans le même temps, les moyens de l'État ont été considérablement accrus en la matière. Le dispositif spécialisé pour les demandeurs d'asile compte 239 places pérennes et le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun est constitué de 129 places contre 64 en 2017. Dans l'actualité également, les sages-femmes une nouvelle fois dans les rues. Un rassemblement a eu lieu en fin de matinée devant le Chicas à Gap. Une profession à bout de force selon la CFDT Santé Sociaux des Hautes-Alpes. Elle demande notamment une revalorisation salariale, mais aussi un accès à la formation à hauteur des professions médicales. À Digne-les-Bains, la campagne pour les municipales bat de nouveau son plein. Avec l'annulation des élections de 2020, la campagne fait son retour. La liste de Gilles Chalvet de Terre Dinoise compte bien sortir de sa place d'opposante pour représenter d'ici le 13 décembre la nouvelle majorité. Alors le bilan des 15 mois écoulés avec la maire Patricia Granet-Brunello est passé au crible. Manque de transparence, de respect, Gilles Chalvet veut insuffler de la démocratie participative. Il veut aussi axer sa campagne sur le dynamisme économique.
On a disparu des écrans régionaux. Vous voyez, quand vous voyez surtout le dynamisme qui nous entoure. Alors bon, on s'y sort bien entendu avec Daniel Spagnou qui insuffle une dynamique depuis des années, mais Manosque également, d'autres villes, Fort-Calquier avec l'arrivée de David Jean, mais toutes les villes autour de nous ont une dynamique importante, contraste avec notre ville qui a pourtant des atouts majeurs, en s'appuyant, si vous voulez, sur le développement durable et le désenclavement. Il faut profiter des atouts de nature de Digne-les-Bains, ça c'est le premier point, en ramenant, si vous voulez, des start-up, des petites entreprises autour du développement durable. Et puis, on s'est battu pour le désenclavement sur la route nationale 85, sur le projet d'un train-tram. Alors, on est parti sur l'hydrogène, on a évolué aujourd'hui un petit peu dans notre réflexion, pourquoi pas l'hydroélectrique, peu importe, il faut une énergie décarbonée.
Gilles Chalvet qui était ce matin l'invité du 8h30. Son interview est à retrouver dans son intégralité sur alpe1.com. La 7e édition de la grande mobilisation pour l'emploi, c'est demain de 9h30 à 13h30 au Quattro de Gap. Un événement co-organisé par la mairie et Pôle emploi pour mettre en lien demandeurs d'emploi et employeurs. Plus de 65 entreprises dans les métiers du commerce, de l'hôtellerie-restauration, du BTP, de la santé ou encore des transports proposeront plus de 200 offres d'emploi. En bref, La Poste, nouveau site d'examen pour le code de la route à Sisteron. Après Manosque et Digne-les-Bains, la Citadelle devient la troisième commune des Alpes de Haute-Provence où les automobilistes en herbe pourront passer cette épreuve théorique. Ce sera la plateforme courrier du 11 Allée des Tilleuls. En constituant un dossier avec son auto-école ou directement avec la préfecture, les candidats devront s'inscrire en ligne et valider le paiement au tarif unique de 30 euros. Au total, 10 sessions par semaine, les mercredis et samedis seront organisées à raison de 3 candidats par rendez-vous. Alpe 1, reportage, on prend la direction de Châteauvieux où la savonnerie Kezia veut faire du zéro déchet son credo. Lancée à la fin de l'année 2019 pour des savons vendus depuis un an, cette savonnerie est dirigée par Coralie Selin, une jeune chimiste de 35 ans. Avec son compagnon Antoine Ripoll, ils se sont lancés dans une production qui se veut respectueuse de l'environnement. Un couple qui cofinance également un projet leader pour développer une filière d'approvisionnement en corps gras cosmétique sur le territoire haut-alpin. Christophe Laurenceau.
C'est de la grosse cuisine, la savonnerie. Donc j'utilise mes grosses marmites.
Coralie Selin voulait faire de la chimie plus quotidienne. Après quelques années de travail aux Pays-Bas pour une multinationale en biotechnologie, elle a décidé de revenir en France pour créer sa savonnerie dans les Hautes-Alpes. Un choix qui n'a pas été fait au hasard puisque sa famille est originaire de la région. Elle s'est donc installée avec son compagnon à Châteauvieux dans une ferme dont une partie a été transformée en savonnerie.
Faire du savon, c'est tout simple, c'est une grosse mayonnaise. Donc on va transformer des corps gras en molécules de savon en utilisant une base forte. Moi j'utilise la saponification à froid, ce qui est du coup une méthode qui n'utilise pas beaucoup d'énergie.
Une fois que le processus de saponification entre en jeu, le savon est versé dans des moules en bois. Très vite, la réaction opère, les savons sont alors découpés.
Donc là je tends les fils, voilà, donc là c'est bon, maintenant on peut découper.
À la savonnerie Kezia, on coupe le savon en musique. C'est une machine en bois avec des cordes de guitare qui a été conçue pour découper les savons encore tendres. Des savons qui seront ensuite vendus sans emballage dans une logique de zéro déchet. Le logo de l'entreprise et les numéros de lot sont donc estampillés directement grâce à des tampons fabriqués par un artisan.
Ce que j'aime bien faire à la savonnerie, c'est vraiment pousser la démarche parce que j'étais frustrée qu'en fait, il y ait un produit qui soit zéro déchet ou écologique. Derrière l'entreprise et la démarche et la fabrication et ce qu'on utilisait, les matériaux utilisés pour la fabrication, ben en fait, ça ne suivait pas. Et moi, ça me frustrait beaucoup en tant que consommatrice.
Une savonnerie qui a d'ailleurs reçu la certification Nature et Progrès. Elle garantit des produits cosmétiques respectueux de l'environnement. À Kezia, le choix a été fait de travailler avec des matières premières françaises, exception faite pour l'huile d'olive espagnole. Mais le territoire manque justement d'huile locale pouvant être utilisée pour les cosmétiques. Alors, Caroline Selin et Antoine Ripoll ont décidé de développer cette filière à travers un projet leader soutenu par l'Europe et la région à hauteur de 65 000 euros cofinancé à 10% par la savonnerie.
L'idée là-dedans, c'était de faire déjà tout un travail de prospection pour savoir est-ce qu'on fait de l'huile quand même sur le territoire ou pas. Est-ce qu'on a une expérience un minimum de tout ça? Est-ce qu'on l'a fait par le passé? Est-ce qu'il y a eu d'autres expérimentations qui ont été menées? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut développer ici qui serait pertinent, à la fois d'un point de vue économique pour les agriculteurs, mais aussi sur un point de vue environnemental et sur un point de vue agronomique aussi.
L'an prochain, une phase de test sera menée sur des parcelles d'une dizaine d'agriculteurs avec certaines plantes aléogineuses. Ce projet leader se conclura en décembre 2022. Un état des lieux sera alors fait pour voir si effectivement cette filière d'approvisionnement en corps gras cosmétique est viable dans les Hautes-Alpes.
Merci Christophe. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur Kezia sur alpe1.com. Le label commune touristique décerné à Orpierre, un arrêté préfectoral a été pris pour une durée de 5 ans. C'est la seule commune du sud du département des Hautes-Alpes et du bassin du Buëch à avoir cette dénomination. Une décision qui réjouit le maire de la commune, Gilles Crémilieu. Orpierre est bel et bien une commune touristique depuis fort longtemps et attire de nombreux touristes avec la rénovation de sa vieille cité. Notez que des travaux pour construire une via ferrata sont en cours. Enfin, concernant l'actualité événementielle de la commune, le marché aux fruits anciens aura lieu le 30 octobre. Le thème sera la noix et le noyer pour cette 19e édition. Autre rendez-vous cette semaine, la fête des morts à Barcelonnette. Elle débutera sa 3e édition mercredi. Au programme, 4 jours avec de nombreuses festivités pour célébrer la culture mexicaine. La vallée de l'Ubaye et le Mexique entretiennent en effet des liens étroits depuis les migrations de près de 3000 Ubayens au 19e siècle. Danse, musique, mais aussi cuisine traditionnelle ou encore exposition seront proposées jusqu'au 31 octobre avec en point d'orgue le défilé des Catrinas géantes. Ce sera ce samedi à 11h et 15h. Draghi Vojvodjanovic, directeur du Bay Tourisme.
C'est des marionnettes géantes qui sont typiques du Mexique et qui sont utilisées pour toutes les fêtes nationales qui peuvent se dérouler au Mexique. Donc nous, on a pu en acquérir 5 qu'on a fait venir de Mexico. Elles mesurent à peu près 6 mètres de haut et elles symbolisent, elles représentent typiquement la fête des morts. Donc on va voir ce grand défilé qui va être ouvert par les traditionnels mariachis qui vont entraîner avec leur musique le défilé. Il n'y a qu'une chose qui va être un petit peu différente cette année, c'est que traditionnellement, on a des maquilleurs professionnels qui sont présents et dans le cadre des restrictions sanitaires, on n'a pas le droit de faire de maquillage. Donc on a prévu des kits qu'on va distribuer à l'office de tourisme en amont et chacun pourra se maquiller chez soi et venir participer ensuite au défilé. Alors certains vont aussi certainement maquiller une partie du masque.
Après les 5000 visiteurs en 2018 et les 7500 en 2019, l'objectif est désormais d'atteindre la barre des 10 000 personnes cette année.
Alpe 1 Sport.
De la Ligue Magnus et les Diables Rouges de Briançon, après 5 défaites d'affilée, renouent avec la victoire face à Gap. Les Briançonnais se sont imposés 4 buts à 3 à l'Alpe Arena. Une victoire qui permet aux Diables Rouges de remonter à la 9e place au classement. A l'inverse, avec 2 défaites en 2 matchs, les Gaponçais sortent du podium et tombent à la 5e position.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.